journal est présenté par Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. La Russie se dit prête à une pause humanitaire hebdomadaire de 48 heures à Alep afin de permettre l'acheminement de l'aide aux populations civiles. Des centaines de milliers d'hommes, femmes et enfants pris sous un déluge de feu et de bombes et dans un état de pénurie extrême. Cette pause dans les combats concernerait aussi bien les quartiers est de la ville contrôlés par les rebelles que la partie ouest tenue par les forces gouvernementales. L'ONU se félicite de la démarche, mais on sait à quel point les précédentes trêves ont été fragiles. Cette annonce intervient en tout cas alors que c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'aide humanitaire à l'appel de l'ONU. Actuellement, 130 millions de personnes dans le monde ont besoin d'aide, mais les États ont du mal à assumer leurs responsabilités. Nadine Epstein.
Juste pour 2016, les besoins humanitaires les plus urgents face aux crises qui non seulement se multiplient mais s'inscrivent dans la durée, ces besoins ont été évalués à 21 milliards de dollars, somme nécessaire pour apporter aux populations touchées par les guerres et les conflits les éléments basiques comme l'eau potable, la nourriture, un toit ou des médicaments. Or seulement un tiers de cet argent n'a été versé par les pays qui le plus souvent font des promesses d'engagement et ne les tiennent pas. Certes, l'argent est l'une des données fondamentales de l'aide humanitaire, mais à côté du financement, il y a aussi la solidarité. L'exemple le plus flagrant est la crise des réfugiés. 6 pays les plus riches, dont la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, accueillent moins de 9% du nombre total de réfugiés, une goutte d'eau. Tandis que d'autres pays font preuve de beaucoup plus de générosité concernant la Syrie. C'est le cas du Liban, de la Turquie, de la Jordanie. En mai dernier, lors du premier sommet mondial de l'aide humanitaire qui s'est tenu à Istanbul, tous les acteurs de l'aide ont été appelés à se rallier derrière le message « Une humanité, des responsabilités partagées », demandant aux États de garantir la sécurité et la protection des travailleurs humanitaires qui aujourd'hui sont de plus en plus la cible de violences.
Médecins sans frontières évacue son personnel de 6 hôpitaux du nord du Yémen. C'est l'une des rares ONG internationales encore présentes sur place. Un hôpital d'MSF, je vous le rappelle, avait été pris pour cible par un raid lundi. Raid qui avait fait 19 morts et 24 blessés. Aux États-Unis, Donald Trump, distancé dans les sondages, fait un mea culpa. Le candidat républicain dit regretter d'avoir prononcé des paroles blessantes durant la campagne. Aveu fait lors d'un meeting en Caroline du Nord, des excuses insuffisantes pour le camp démocrate. Restons sur le continent américain avec cette décision de Washington de mettre fin aux prisons privées. Dans les années 80, face à l'explosion de la population carcérale, l'État fédéral avait en effet décidé de privatiser certaines prisons. Mais Washington fait donc aujourd'hui machine arrière. L'administration Obama fait valoir que les économies réalisées ne sont pas significatives, mais aussi que ces prisons sont plus dangereuses que les pénitenciers publics. À New York, Charlotte Alix.
Pour l'État fédéral, c'est le début de la fin d'une expérimentation démarrée il y a une vingtaine d'années, celle de la privatisation des prisons. Cela concerne 13 établissements privés, un peu plus de 22 000 détenus. Ils ne fermeront pas du jour au lendemain, mais le département de justice ne renouvellera pas les contrats qui arrivent à expiration. Ces prisons ne font pas faire d'économies substantielles et elles ne garantissent pas le même niveau de sécurité et de sûreté. Voilà ce qu'écrit la ministre adjointe de la Justice pour justifier cette décision. Une décision qui fait suite à un rapport particulièrement critique de l'inspection générale la semaine dernière qui montrait que la violence et la contrebande étaient beaucoup plus fréquentes dans ces prisons privées qui en outre offrent moins de chances de réinsertion. Ce n'est pas une révélation. Morts suspectes, émeutes, conditions de vie déplorables, les pénitenciers gérés comme des entreprises sont montrés du doigt depuis des années par les associations et certains élus. Pour eux, c'est donc une victoire, mais très partielle car cela ne représente qu'environ 10% des prisons privées. La grande majorité est en effet sous contrôle des États. Mais cette décision de Washington pourrait faire boule de neige au niveau local. Cela ne se fera pas sans opposition de ces entreprises. L'industrie des prisons à but lucratif, forte de 130 000 prisonniers, représente un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de dollars.
La Grèce doit examiner aujourd'hui la demande d'asile de 8 militaires turcs qui ont fui après le putsch manqué du 15 juillet. La Turquie réclame leur extradition à Athènes. La Turquie où un crime haineux endeuille la communauté LGBT. Le 8 août, le cadavre d'Hande Kader, cet activiste transgenre, a été retrouvé au bord d'une route d'Istanbul, complètement brûlée. La jeune femme avait 22 ans, elle se prostituait pour vivre. Elle était devenue un emblème de la Gay Pride stambouliote en 2015. Kemal Ordoğ est une militaire transgenre turque. Elle revient sur cette marche des fiertés réprimée à Istanbul et nous raconte le combat du mouvement LGBT pour revendiquer ses droits en Turquie.
Cette année et l'année précédente, nous avons été interdits de manifester par la police d'Istanbul pour la marche des fiertés. Andé était l'une des personnes qui a résisté à cette décision de police. Elle est devenue assez connue du fait de sa lutte contre la répression policière. Je me trouvais sur place, c'était assez violent car nous voulions manifester et pour la première fois l'année dernière, nous avons été attaqués avec des flashballs et des canons à eau, sans compter les charges de police. Cette année encore, des événements similaires se sont produits. La visibilité de la communauté transgenre a augmenté ces deux dernières années après le mouvement de Gezi Park, parce que de nombreuses personnes transgenres et plus généralement les LGBTI se sont organisées et se sont politisées. Par ce biais, ils sont devenus plus visibles, mais en réponse à cela, la riposte ne s'est pas faite attendre. Des personnes homophobes et transphobes qui veulent réduire la communauté LGBTI au silence ont commencé à s'organiser et à prendre pour cible les LGBTI.
Kemal Erdoğan du mouvement LGBT turc avec Timur Öztürk. Peut-être le début d'une sortie de crise en Espagne. Le chef du gouvernement, le conservateur Mariano Rajoy, doit signer ce matin un pacte anticorruption. C'est la condition posée par le petit parti Ciudadanos pour lui apporter son soutien. En France, Emmanuel Macron au Puy du Fou ce vendredi est sur la tombe de Georges Clemenceau. Le ministre de l'économie entend faire une rentrée remarquée alors qu'il doit dévoiler dans les prochaines semaines le programme du mouvement qu'il a lancé En Marche. Si un membre du gouvernement de François Hollande se voit donc accueilli par Philippe de Villiers sur ses terres, eh bien cela s'annonce plus difficile pour ceux qui ont prévu d'aller autour du Premier ministre non loin de Toulouse pour un séminaire de travail à la fin du mois d'août. La CGT ne veut en effet pas du meeting de rentrée des socialistes en Haute-Garonne sur la terre natale de Georges. Elle dénonce une provocation indécente après la loi travail et l'affaire dite de la chemise arrachée du DRH d'Air France. Cédric Cobert est secrétaire départemental de la CGT.
Il a rendu hommage du bout des lèvres et avec parcimonie à notre grand dirigeant confédéral Georges Seguy qui s'est éteint ces jours-ci et qui était né à Toulouse, qui était né en Haute-Garonne. Le fait de venir ici, c'est une provocation. Hein. La seule chose qu'il est capable de faire, de la provocation, puisqu'il n'est pas capable de redresser la politique économique ni la politique sociale de ce pays. Et donc, nous lui demandons de ne pas venir. Bien entendu, nous nous appelons à la responsabilité de chacun et nous attendons que ce meeting n'ait pas lieu. S'il avait lieu quand même, eh bien, d'ores et déjà, nous irons jusqu'à organiser un contre-meeting. Et puis je tiens à souligner que seront présents toutes les organisations syndicales qui luttent contre le projet de loi travail depuis le début. La CGT, bien entendu, mais à ses côtés, FSU, Solidaires, les organisations syndicales de jeunesse. Et puis, les salariés seront nombreux présents, on n'en doute pas.
Cédric Cobert, secrétaire général de la CGT Haute-Garonne. Le temps ce vendredi mitigé dans le nord avec un retour de la pluie par l'ouest. Beaucoup plus ensoleillé dans le sud. Il est 9h08. Ces éditions du matin ont été préparées avec Yacine Bouzard et Brice Garcia.